Okay.
On va enlever la vignette. J'ai pas envie de le voir, ça va m'agacer.
D'accord. Pic.
Parfait. Merci.
Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Voilà, je vous souhaite donc la bienvenue. C'est un peu juste? Ah. Oui, vous tous, vous avez gravé les frimas, au moins le brouillard pour certains d'entre vous. Voilà donc notre séance de présentation de livres se déroulera comme les séances précédentes, c'est-à-dire que après, j'aurai présenté les conférenciers. Donc, il parlera pendant environ 45-50 minutes, mais il peut dépasser. Ce n'est pas moi qui vais montrer des signes d'impatience. Lui, vous pourrez poser toutes les questions au père Rudeau. Et alors, je dis pour les personnes qui nous suivent par Zoom, qu'elles pourront poser leurs questions par chat. Voilà. Donc, je pense que nous aurons une belle séance sur un sujet vraiment particulier. Voilà, donc je m'arrête en tant que président de la bibliothèque par intérim et je vous présente brièvement maintenant le père Boudot. Le 5 février 2025, vous nous faisiez l'honneur, bien cher père, de présenter votre livre, Prima, publié en 2 volumes l'année précédente, et je serais tenté de renvoyer nos auditeurs à ce que je disais alors. Mais ce ne serait évidemment pas équitable à l'égard de ceux qui viennent vous écouter ce matin pour la première fois. Ce ne serait pas non plus opportun car votre second ouvrage s'inscrit dans vos recherches d'historien et il convient que je retrace donc celles-ci brièvement. Elles ont commencé avant votre rentrée au séminaire en 1993, puisqu'en 1990, vous aviez soutenu à l'Université de Grenoble un mémoire sur la mentalité aristocratique vue à travers les grandes chroniques de Jean Froissart. En 2000, année de votre ordination sacerdotale, vous obtenez une licence canonique de théologie à l'Université catholique de Lyon après soutenance d'un mémoire sur la naissance du processus de conciliarité au Concile de Chalcédoine. Concile, théologie et histoire dans une perspective d'union des Églises. Mémoire qu'avait alors dirigé notre ami commun Bernard Mounier, éminent spécialiste des pères. Ce travail vous désignait naturellement pour poursuivre des études historiques et c'est à Rome où vous êtes envoyé que, dès 2003, vous soutenez une thèse de doctorat en théologie à l'Université pontificale grégorienne sous la direction du père Dario Vitali, spécialiste du Sensus Fidelium. Elle avait pour titre La restauration de l'unité visible de l'Église au Concile de Constance. De retour dans le diocèse de Grenoble pour votre premier ministère, celui de prêtre coopérateur, vous est confiée la paroisse de Saint-Mathieu du Saint-Énard. Vos fonctions suivantes dans le Goironnais, puis à Saint-Martin-d'Uriage-Vizy, ne vous empêchent pas de poursuivre vos travaux jusqu'aux 2 tomes de Prima de 2024, présentés il y a tout juste un an, et ensuite celui qui nous réunit ce matin. Peut-on cesser d'être pape? Publié ici chez l'Harmattan en mai 2025, avec une préface de Frédéric Lemoal dans la collection Religion et spiritualité, dirigée par Gilles-Marie Moreau, votre confrère de l'Académie Delphinale. Votre regard avisé sur toute l'histoire de la papauté nous en fait découvrir toutes les vicissitudes. Les 2 derniers siècles nous ont habitués en quelque sorte à des élections papales régulières et non l'objet de contestations. En remontant dans l'histoire, si j'en juge d'après ce que j'avais retenu dans mon enfance, je ne trouvais guère que celle de Célestin Saint, dont l'abdication le 13 décembre 1294, il gran rifiuto, devait lui valoir les reproches véhéments de Dante, ou, plus haut, la déposition post-mortem de Formose en 896 par les soins d'Étienne VI. Mais à la lecture de votre livre, j'ai découvert que ces événements spectaculaires et qui, de fait, avaient frappé les contemporains, prenaient place dans une succession bien plus fournie et fort mouvementée. Votre livre, à la lecture attrayante, j'ai à peine besoin de le signaler, analyse tous les cas d'élection papale contestés ou, disons, laborieuses. Trois époques recensant 30 papes agrémentés de gravures jusqu'à Jules II en 1512, avec à la fin de précieux dossiers sur les acteurs de la cessatio papatus, interruption de l'autorité papale, qu'il s'agisse des cardinaux ou, à la fin du Moyen Âge, du Concile œcuménique. Vous revenez ensuite sur les cas de velléité d'abdication entre 251 et 2005, avant d'arriver à la quatrième époque en 2013, la renonciation surprise de Benoît XVI. La section Conséquences et questionnements est riche d'enseignements et de réflexions, sans parler des annexes qui, outre une liste détaillée des papes, reproduisent quelques documents médiévaux, le texte de la renonciation de 2013 et des projets de canonisme. L'étendue de votre information, polyglotte et conjuguant les sources médiévales et les publications en ligne de multiples sites, est impressionnante. De l'histoire mouvementée de l'exercice de la fonction papale, vous ne retenez que quatre cas de renonciation proprement dit. Benoît IX en 1046, Célestin V en 1294, Grégoire XII en 1415 et Benoît XVI le 11 février 2013. Les titulaires ont pris en compte, je cite, la divergence entre la logique propre à l'office ecclésial suprême et leur capacité personnelle. À la question qui est le titre de votre livre, peut-on cesser d'être pape? Vous répondez à la lumière de l'histoire par la négative. D'une part, en souhaitant une législation canonique pour le pape ayant renoncé, retour à l'état cardinalis émérite, et d'autre part, en constatant qu'il garde pour toujours, depuis son élection, la sollicitude de toutes les églises de Corinthiens 11, 28. Espérant ainsi vous avoir suggéré à l'auditoire l'importance du sujet, je me hâte de vous laisser la parole, bien cher.
Merci beaucoup. Alors, on va démarrer comme il se doit par Benoît XVI. C'est vraiment l'acte du 11 février 2013 qui a déclenché dans l'Église tout un tas de réflexions sur ce qui s'était passé, sa valeur, son autorité, ses antécédents. Du coup, je me suis demandé, est-ce que l'acte de Benoît XVI avait des antécédents dans l'histoire? En apparence, oui. J'ai ici quelques-uns des portraits des papes dont on a pu dire qu'ils avaient renoncé ou qu'ils avaient quitté le pontificat d'une façon ou d'une autre. On va voir dans le détail que ce n'est pas forcément vrai et que on commence très tôt en l'an 235. Donc en 217, la communauté chrétienne de Rome est divisée. Le prêtre Hippolyte se dresse contre le pape, qui est à son avis trop laxiste par rapport à la discipline pénitentielle. En 230, Poncien est élu pape Et en 235, l'empereur Maxime déclenche une persécution et envoie Poncien et son rival Hippolyte dans les mines de Sardaigne, ce qui est quasiment une condamnation à mort. Arrivé en Sardaigne, Poncien et Hippolyte déposent ensemble la charge pontificale en souci d'unité. Il meurt quelques semaines après et le successeur est élu après leur mort à Rome. Donc, question, est-ce que la renonciation a vraiment eu lieu? Est-ce qu'elle a été effective pour les fidèles de Rome, puisque le successeur n'a été élu qu'après la mort de Poncien? Donc, un premier exemple qui n'est pas forcément probant. Deuxième exemple possible, Silvère. Alors, on est dans les années 530. Le pape Boniface II a la mauvaise idée de vouloir désigner son successeur, Vigile. Évidemment, le clergé de Rome s'oppose à cela, donc il revient là-dessus, mais Vigile garde en tête que le vrai pape, ça pourrait être lui. En 536, les Byzantins et les Ostrogoths se disputent la possession de Rome. Silvère est élu sous l'influence des Ostrogoths, et quand les Byzantins prennent la ville en 537, il est en mauvaise posture. Vigile se réveille et se fait nommer pape à la place de Silvère, qui est exilé. Silvère, pour le bien de la paix, aurait démissionné et est mort quelques semaines après. Pareil, un cas de schisme, de contrainte, incertitude sur l'acte, on n'est pas sûr, donc ce n'est pas forcément un antécédent. Troisième, Martin Ier. En 649, il tient un concile pour condamner le monothélisme, une hérésie venue d'Orient, soutenue par l'empereur de Byzance. L'empereur fait un peu comme le président Trump. Il envoie des troupes enlever le pape, le ramener à Constantinople, le juger, le condamner à mort et l'exiler en Crimée, où il meurt en 655. Dès 654, le clergé de Rome a élu un successeur à Martin Ier. On a supposé que Martin aurait démissionné, mais rien n'est moins sûr. Donc, encore une fois, ce n'est pas un antécédent possible. On entre dans ce qu'on appelle la crise formosienne. Formose, que vous voyez ici, est un homme qu'on dirait clivant aujourd'hui. Il était évêque de Porto, le port antique de Rome, et il est élu évêque de Rome en 891. À l'époque, l'Italie est disputée entre les derniers Carolingiens et la maison de Spolète. Formose fait le mauvais choix. Il meurt juste avant que la maison de Spolète s'empare de Rome, et ça va être le prélude à des événements dramatiques. Son successeur, Boniface VI, un diacre qu'on avait dégradé pour inconduite, est élu pape, dans des conditions un peu suspectes, et meurt 15 jours après. Lui succède Étienne VI ou VII, suivant la numérotation, qui, patronné par la maison de Spolète, organise ce qu'on a appelé le concile cadavérique. On sort Formose de son tombeau, on le met sur le trône pontifical, on met à côté de lui un diacre pour parler à sa place, et le pape Étienne VI le met en accusation, le condamne, le dégrade, on coupe ses doigts qui avaient servi à bénir, et on le jette dans le Tibre. Ça n'a pas porté chance à Étienne VI, qui a été renversé par une émeute, jeté en prison et étranglé. Nous sommes en 897. Son successeur, le pape romain, tient quelques mois et on dit qu'il aurait abdiqué pour se retirer dans un couvent où on l'aurait déposé. On n'est pas sûr. Son successeur, Théodore II, tient 10 jours et il meurt, bizarrement. Deux successeurs que je ne vous ai pas mis. On arrive en 903, le pape Léon V est élu. Il tient quelques mois et il est renversé par le pape Christophe, qui tient quelques mois, qui est renversé par le pape Serge III, qui les fait exécuter tous les deux. Donc certains ont été dit avoir abdiqué. On parle de démission de Léon V, mais on est sûr de rien. Donc, Autant vous dire que tous ces exemples dramatiques ne sont pas des antécédents potentiels pour vos 16. Mille 1032. Benoît IX, de la famille des comtes de Tusculum, est nommé pape. Pas vraiment élu, mais nommé. Son pontificat est un scandale permanent. En 1044, il est renversé par les Romains, qui élisent Sylvestre III, qui est renversé par Benoît IX revenu avec une armée en 1045. Or, Benoît IX comprend que la population lui est hostile et il a envie de se marier. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cède la tiare en 1045 à son parrain, qui devient Grégoire VI. Simplement, après avoir fait ça, il a des regrets, donc il revient. Sylvestre III n'est pas très loin, et Grégoire VI est toujours en place. Donc on a trois papes que le Concile de Sutri va déposer tous les trois. On dit que Grégoire VI aurait abdiqué spontanément. Voir. Donc encore une fois, une crise résolue par des abdications ou des dépositions, on n'est sûr de rien. On arrive à Célestin V. Nous sommes en 1294. Les cardinaux sont réunis en conclave depuis 2 ans et ne se mettent pas d'accord entre eux sur un nom. Qu'un jour, l'un d'entre eux a une illumination en disant: on pourrait élire un saint homme que je connais, Pierre Morone, pour être pape. Donc il est élu pape en juillet 1294. Il se rend très vite compte qu'il est manipulé. Le roi de Naples fait de lui ce qu'il veut, les cardinaux intriguent dans l'ombre, les gens sont mécontents. On voit ici le pape Benoît XVI vénérant le corps de son prédécesseur. Et du coup, il abdique en décembre. Il n'était pas pendant 5 mois. Alors, ça vaut la peine de voir comment il présente les choses. Moi, le pape Célestin V, mû par de légitimes causes pour garder l'humilité, une meilleure vie et une conscience intacte. Du fait de l'affaiblissement de mon corps, de mon manque de science et de la méchanceté des gens. Du fait aussi de mon infirmité personnelle, et pour que je puisse retrouver le repos consolant de ma vie passée, je cède spontanément et librement la papauté. Et j'en quitte expressément le rang et la dignité, le fardeau et l'honneur, donnant à partir de maintenant pleine et libre faculté à cette sainte assemblée de cardinaux d'élire et de pouvoir canoniquement l'Église universelle d'un pasteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord le préambule. C'est un aveu d'échec. En gros, c'est comme s'il disait: vous n'avez pas choisi la bonne personne. Donc, c'est vraiment une abdication marquée par le sceau, on dirait aujourd'hui, d'une erreur de casting. Je n'étais pas fait pour ça. Avec une cession explicite de la papauté, son rang, sa dignité, son honneur et l'ordre donné aux cardinaux d'élire un nouveau pape. Le nouveau pape, ce sera Boniface VIII, le contraire parfait de son prédécesseur. Un homme dur, arrogant, ambitieux, sans scrupules, qui va dresser contre lui notamment le roi de France, et ça va très mal se terminer, comme on sait. Cet homme très dur va susciter des oppositions. Et du coup, toute une frange de l'Église va dire: Célestin V, c'est notre pape de cœur. Et puis on va dire: il est resté pape. C'est lui le pape. Donc pendant 2 ans, jusqu'à la mort de Célestin V, de l'ex-Célestin V, l'ombre de sa démission va peser sur Boniface VIII. Un procès en légitimité lui est fait, plus ou moins ouvertement, jusque par ses propres cardinaux. Et même après sa mort, il va continuer à peser sur tout le pontificat de Boniface VIII. Donc autant vous dire que c'est le contre-exemple parfait, c'est une abdication qui est un aveu d'échec et qui pèse sur le pontificat du successeur. Du coup, c'est un contre-exemple qu'on essaiera de ne pas suivre dans l'Église. Ce qui fait que pendant un siècle, on ne parlera plus d'abdication. Les papes sont à Avignon, comme vous savez, de 1305 à 1378. Le pape Grégoire XI revient à Rome, meurt juste à ce moment-là. Et donc on a un conclave majoritairement composé de Français, à qui la foule romaine demande d'élire un Italien. Il n'est pas question qu'un Français soit élu, il va retourner en France et on va perdre la papauté. Donc une atmosphère d'émeute qui n'empêche pas les cardinaux d'élire quand même quelqu'un qu'ils connaissent, le régent de la chancellerie apostolique, donc ce n'est pas un inconnu, un gars qu'ils estiment, qui n'a jamais été cardinal, mais qui peut pour eux faire office de pape. On l'élit, et ce sera Urbain VI. Le problème, c'est qu'une fois élu pape, il va devenir incontrôlable. Il gourmande ses cardinaux en leur reprochant leur richesse, leur cupidité. Il y en a un qui manque de se prendre une claque en plein consistoire. Il devient violent et imprévisible. Les cardinaux, profitant de l'été, s'enfuient de Rome les uns après les autres, le déposent et élisent à sa place Clément VII. Et là va naître ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident. Les pays en vert demeurent fidèles au pape de Rome, Urbain VI. Les pays en rose adoptent Clément VII, le pape d'Avignon. Les pays en orange changent d'obédience suivant leur intérêt. Avez-vous remarqué que par hasard, Clément VII, qui s'appelle Robert de Genève, est reconnu par la France, c'est le cousin du roi de France. Comme la France le reconnaît, l'Angleterre reconnaît son opposant, Urbain VIII et Urbain VI. Comme l'Angleterre est du côté de Rome, l'Écosse est du côté de la France, c'est logique. Donc les jeux nationalistes se mettent en place et l'Europe est divisée profondément, pas simplement pour une question de savoir qui est le vrai pape, mais de savoir qui va l'emporter. La situation perdure très longtemps et permet une véritable efflorescence de réflexion, dont je vous marque quelques éléments théoriques débattus lors du grand schisme. Le premier axiome est le plus traditionnel. Le premier siège n'est jugé par personne. Qu'est-ce qu'on fait s'il faut juger le pape? Qui a autorité pour le faire? La tradition canonique dit personne, Dieu seul. Donc impasse. Un deuxième axiome est aussi très ancien. Le salut des âmes doit être la loi suprême. Oui, mais quand les âmes des fidèles sont perturbées par le schisme au point que ça crée un problème profond, est-ce qu'il ne faut pas faire sauter le premier axiome au profit du second? Et qui en décide? Impasse. Troisième axiome de Gerson, Jean Gerson un Français, les papes restent, les papes passent, la papauté reste. On relativise la valeur de celui qui tient le poste tout en prétendant garder l'importance de la fonction elle-même. Quatrième point de réflexion, la tyrannie. On sait qu'au Moyen Âge, il y a une grosse réflexion sur la tyrannie. Qu'est-ce qu'on fait quand le roi se manifeste comme un tyran, qu'il outrepasse ses pouvoirs? Deux solutions. Soit on dit son gouvernement est devenu insupportable, donc parce qu'il est devenu un tyran, on peut le déposer. Tyrannie légitime. C'est visiblement le cas pour Urbain VI. On l'a élu et il devient insupportable, on essaie de s'en débarrasser. Le problème, c'est que c'est mal vécu à l'époque. Un roi, ça ne se dépose pas comme ça, c'est loin du Seigneur. Un pape, il a été choisi par Dieu. Donc on est tenté d'aller du côté de la tyrannie acquisitive. En fait, il n'était pas vraiment roi. C'est un usurpateur. En fait, ce n'était pas le vrai pape, On peut le virer parce qu'il n'a jamais été pape. Donc le débat passe d'une accusation de tyrannie à une accusation d'illégitimité. Et donc on va se déchirer pendant des années à coups de traités et aussi d'armées et d'excommunications pour savoir qui est légitime au nom de quoi. Mais c'est une impasse. On en vient à réfléchir sur la ministérialité de la fonction papale. Le pape est ministre et non pas seigneur de l'Église. S'il est ministre, il est au service d'un corps plus grand que lui, qui est l'Église. Si sa persistance met en danger l'Église, c'est lui qui doit sauter et non pas l'Église. Et du coup, certains en viennent à imaginer une délégation de pouvoir au pape, soit la communauté des fidèles implicitement délègue au pape ses pouvoirs baptismaux pour régenter l'ensemble, soit ce sont les cardinaux qui, en tant que corporation représentant l'Église romaine, élit un représentant, un délégué qu'elle peut révoquer. Le problème, c'est que ça n'est pas traditionnel. Ça n'est pas avéré dans l'histoire de l'Église. C'est une nouveauté. Donc, on n'est pas à l'aise avec ça. Donc, le schisme se continue. En 1408, les cardinaux des deux côtés en ont marre. Ils se réunissent, ils convoquent à eux seuls un concile œcuménique à Pise, en dehors de leur pape. Le concile se réunit en 1409 et dépose les deux papes, le pape de Rome et le pape d'Avignon, et en aligne un troisième, Alexandre V. Naturellement, les deux autres refusent de s'effacer. Et on a trois papes. Donc en bleu, l'obédience de Pise, largement majoritaire. En vert, la région de Recanati en Italie, quelques principautés allemandes, c'est tout ce qui reste au pape de Rome, Grégoire XII. Et en rose, on a l'Écosse, la Castille, la Navarre, l'Aragon, le comté de Foix, et le comté d'Armagnac, la Sardaigne et la Sicile, qui reste fidèle au pape. Alors, c'est plus le pape d'Avignon, il est en Espagne à Peniscola. En orange, comme d'habitude, le royaume de Naples qui change d'avis chaque fois qu'il change de gouvernement. Nouvelle impasse. On a trois papes au lieu de deux. Va se réunir le concile de Constance en 1414. Trois papes. Grégoire XII, qui représente la légitimité romaine, Benoît XIII, qui représente la légitimité d'Avignon, Jean XXIII, qui représente la légitimité de Pise. Ils vont tous les trois être écartés lors du concile de Constance. Vous avez ici une belle représentation gravée de la ville au XVIe siècle. Alors, Jean XXIII est celui du pape qui a officiellement convoqué le Concile de Constance. Il l'a fait à regret. Il le préside en pensant que ce sera l'occasion d'éliminer ses deux rivaux. Manque de chance, il n'est pas aimé et il n'est pas très exemplaire. Donc le Concile a commencé par se débarrasser de lui. Il s'enfuit, on le rattrape, on lui fait son procès. Alors, parmi les causes des chefs d'accusation, il y a simonie, hérésie, sorcellerie, inceste, piraterie, j'en passe des meilleurs. On le dépose en mai 1415 et on le garde en prison pour être sûr qu'il ne fasse pas d'histoire. Le deuxième pape, Grégoire XII, le pape de Rome, comprend que c'est le moment de céder. Et il le fait très bien en reconvoquant le concile pour lui donner sa propre légitimité et en abdiquant par son procurateur, Charles de Malatesta, le seigneur de Rimini. Donc là, vous avez ce que son représentant a dit au Concile de Constance en abdiquant au nom de Grégoire XII le 4 juillet 1415. Uniquement animé par un désir sincère et ardent de procurer l'union sacrée et le retour des chrétiens à l'unité de leur sein de l'Église, je renonce et je cède expressément, effectivement et réellement, au nom du pape Grégoire XII, mon maître, aux droits, titres et possessions qu'il a au pontificat. Et je résigne au nom de notre Seigneur le pape la papauté et tout droit, titre et possession du pontificat, en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête et l'époux de sa Sainte Église, et de ce Saint-Concile général qui représente la Sainte Église romaine et l'Église universelle. Le motif est dit, c'est schisme. Pour mettre fin au schisme, le pape consent un geste hors norme qu'il n'aurait pas dû faire normalement. Il cède explicitement et complètement toute sa dignité pontificale. Et il signale qu'il la cède en présence du concile œcuménique, qui représente l'Église universelle et l'Église romaine. Donc c'est la reconnaissance d'une situation exceptionnelle où le concile œcuménique reprend à lui le pouvoir suprême et en dispose pour le bien de l'Église après un schisme hors norme. Encore une fois, ce n'est pas un antécédent ordinaire. L'ex-pape Grégoire XII se verra reconnaître le rang de cardinal, le premier rang dans le Sacré-Collège, le diocèse de Frascati et les fonctions de légat perpétuel dans le cône au temporel et au spirituel. En français courant, il reste pape là où il est. Il n'a aucun supérieur sur terre en tant que légat pontifical, ni au temporel ni au spirituel. Donc il abdique, mais il reste quand même un peu pape pour lui-même. Et là, vous avez son tombeau dans la cathédrale de Recanati en Italie. C'était la petite bande verte qu'on avait vue tout à l'heure, qui restait fidèle à Grégoire XII jusqu'au bout. Nous voici revenus à Benoît XVI. Je pense que vous avez déjà compris qu'il n'y a pas d'antécédent acceptable pour son acte à lui. On n'est pas en situation de schisme, on n'est pas en situation de persécution, on n'est pas en situation de dire mon élection a été un échec et j'aurais jamais dû être élu. Donc un acte neuf, qui n'a pas de précédent réel. Donc là, vous avez, pardon, une capture d'écran, comme on dit, de la vidéo montrant Benoît XVI en train d'abdiquer. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. Notez le choix des mots. Dans le monde d'aujourd'hui, sujet à de rapides changements et agité par des questions de grande importance pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de Saint-Pierre et annoncer l'Évangile, la vigueur du corps et de l'esprit est aussi nécessaire. Vigueur qui, ces derniers mois, s'est amoindrie en moi d'une telle manière que je dois reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m'a été confié. Toujours le mot de ministère. La référence à Saint-Pierre est intéressant. La fonction papale est d'annoncer l'Évangile. C'est pourquoi, bien conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, qui m'a été confié par les mains des cardinaux le 19 avril 2005. De telle sorte que, à partir du 28 février à 20 h, le siège de Rome, le siège de Pierre, sera vacant et le conclave pour l'élection du nouveau souverain pontife devra être convoqué par ceux à qui elle appartient de faire. Donc on a une renonciation très claire et nette. Il renonce à son poste et le déclare vacant. C'est clair. Simplement, il a employé des mots inhabituels. Il parle de ministère d'évêque de Rome. Or, le code de droit canonique parle un tout petit peu différemment. En 1917, il disait simplement, s'il arrive que le pontife romain renonce, l'acceptation par les cardinaux ou par qui que ce soit n'est pas requise pour la validité. Il renonce, on ne dit pas plus que ça. Le pape est souverain, donc il démissionne, et il suffit qu'il le fasse pour que ce soit acté. Il n'y a pas besoin d'un consentement de qui que ce soit. Le code actuel de 1983, s'il arrive que le pontife romain renonce à sa charge, munus en latin, il est requis pour la validité que les renonciations soient faites librement et dûment manifestées, et non pas qu'elles soient acceptées par qui que ce soit. On revient à la même chose. Alors certains se sont emparés de cette distinction entre le code qui parle de charge et le pape qui parle de ministère pour dire la renonciation n'est pas valable. Il n'a pas voulu démissionner. Et toute une théorie du complot s'est développée sur Internet, entre autres, où les gens qui disent, c'est pas lui qui a fait le document, il n'a pas voulu le faire, etc. Au point que Benoît XVI, dans ses entretiens avec un journaliste quelques années après l'événement, a dit, mais c'est absurde, il y a un seul pape, c'est François. C'est évident. Donc la réalité de sa démission ne doit pas faire question. Elle a été voulue, consciemment posée, et elle est effective et canonique. Simplement, après l'annonce de démission, on a quelques explications par le directeur de la salle de presse ou Saint-Siège. Benoît XVI sera désormais appelé pape émérite ou pontife romain émérite. Il conservera la soutane blanche, mais n'utilisera plus l'anneau du pécheur. Donc l'anneau du pécheur, c'est ça. Autrefois, c'était le cachet, le sceau qui permettait de sceller les bulles pontificales. On en utilise un autre, mais ici, vous avez l'anneau du pécheur du pape Léon XIV. Selon le signe de l'autorité pontificale. Il n'utilisera plus. Ah oui, l'ambiguïté. Si je vous dis pape émérite, vous entendez pape. Et quand on dit pape émérite, il est encore un peu pape. Et d'ailleurs, il ne reprend pas son nom ancien et il conserve sa soutane blanche. Donc l'ambiguïté est présente. Et c'est une nouveauté. Aucun pape démissionnaire n'a eu le statut de pape émérite. Donc on était bien embêtés. Réflexion des canonistes. Alors deux canonistes italiens. Le premier soutient que Benoît XVI a inventé pour le pape démissionnaire un nouveau status, le troisième corps du pape. Alors, ça mérite une petite explication. Au Moyen Âge, on a élaboré la théorie des deux corps du roi. Si j'ai le roi, c'est à la fois Louis XV et le roi de France en tant que tel. Donc il y a Monsieur Louis XV qui vieillit et qui va mourir, mais qui incarne la fonction royale. Il y a le roi de France qui ne meurt jamais. Le roi est mort, vive le roi. À l'instant où Louis XV meurt, c'est Louis XVI qui est roi. Donc, il y a à la fois une permanence dans le temps d'une fonction qui a sa propre autonomie. Quand le roi de France signe un traité, il engage ses successeurs. Le roi de France est toujours là. Mais Louis XV va mourir. Donc, cette dichotomie entre les deux corps du roi a conduit à toute une réflexion politique que Benoît XVI vient un peu compliquer. Il y aurait le monsieur Joseph Ratzinger, qui devient pape émérite. Le troisième corps, c'est Benoît, qui n'est plus Benoît XVI, mais qui n'est pas redevenu au Joseph Ratzinger. Un homme qui a été changé par sa fonction papale, qui ne peut pas revenir à l'état antérieur. Comme si l'élection pontificale avait marqué sa personne d'une manière irréversible. Comme un sacrement, un évêque est consacré évêque. Après sa démission, il reste évêque sacramentellement. Et du coup, il se demande si le pape n'a pas délibérément choisi le terme de ministère au lieu du terme de charge papale pour introduire dans l'Église ce qu'on pourrait appeler un pontificat émérite, une figure nouvelle d'un pape retraité qui n'est plus aux affaires, qui ne prend plus de décision, mais qui continue à porter dans sa prière le souci de toutes les églises, mais en sens spirituel. Roberto Regoli formule l'hypothèse que le pape Benoît XVI a jeté les bases d'une future institution ecclésiale, la papauté émérite, comme je disais. Tout en se demandant ce que peut être un ministère pétrinien sans exercice actif. Et pardon d'être pape pour prier pour toute l'Église. Donc, grande ambiguïté qu'on peut comparer aux situations précédentes. Autre option possible pour un pape qui démissionne, redevenir un simple particulier. Célestin V, le 13 décembre 1994, quand il abdique, il fait ça devant ses cardinaux, il enlève la tiare, il enlève les chaussures pontificales, il enlève les ornements rouges, et il se trouve en simple costume de religieux tel qu'il était avant. Il n'a jamais été cardinal. De religieux, il était propulsé pape. Il redevient ce qu'il était avant, simple religieux. Là, on dit que les cardinaux ont été sidérés par cette liturgie de l'abdication, mais ça n'a pas fait précédent. Le cas était trop extrême. Et en plus, il n'était pas cardinal avant, donc on ne sait pas ce qu'il aurait fait s'il avait été cardinal. Troisième option, Grégoire XII. Lui, après avoir abdiqué, il redevient cardinal. Et même le premier des cardinaux. Il a une phrase dans une de ses dernières bulles où il dit: la dignité cardinaliste est sous-jacente à la fonction papale. Parce qu'un cardinal, c'est un membre de l'Église de Rome. L'Église de Rome est considérée à l'époque comme constituée du pape et de ses cardinaux, comme la tête de l'Église de Rome. Si donc il a été cardinal, il le reste après abdication, parce qu'il reste toujours en lien incardiné à l'Église de Rome. Donc l'ambiguïté est posée. D'autant plus que les vêtements cardinalistes et les vêtements pontificaux ont des couleurs communes, le rouge notamment. Donc la possibilité qu'un pape redevienne cardinal après avoir été élu par ses confrères n'est pas absurde. En guise de conclusion, il me semble possible de dire deux choses. D'abord, la renonciation papale doit être exceptionnel. Ça ne peut pas être un mode ordinaire de gestion de l'âge et de la longueur d'un pontificat. Elle doit être codifiée dans ses termes et dans ses conséquences pour éviter imprécision et malentendu, source de doute et de tension. De que Boniface VIII a été gêné par l'ombre de son prédécesseur Célestin V. Le pape François a été gêné par l'ombre de Benoît XVI, alors que Benoît XVI a été exemplaire dans son attitude, n'intervenant jamais en public, faisant tout pour être discret et oublié du monde. Donc vraiment, il n'a pas joué le jeu d'une opposition, d'une guérilla par derrière. Ça n'a pas empêché une ombre sur le pontificat de son successeur. Donc, c'est vraiment, à mon avis, à éviter de systématiser. Ça doit être codifié dans ces termes, pour ne pas prêter à malentendu et permettre d'éviter les rumeurs complotistes et ainsi de suite. Mais ça implique aussi, si le pape redevient cardinal, qu'on entre dans une réflexion sur ce que c'est que le cardinalat et un cardinal émérite qui serait honorifique, mais perdrait ainsi toute référence active, le droit de vote au conclave et le conseil au pape. Du coup, si on adopte cette solution, le pape redevenu cardinal n'a plus de nom pontifical, il ne porte plus vêtements blancs, on l'appelle plus sainteté ou pape émérite, et c'est plus clair pour tout le monde. Donc les canonistes italiens ont fait toute une réflexion proposant au pape de faire une constitution apostolique pour déterminer les cas où le pape démissionnant acquiert un statut nouveau. Et l'autre cas qui est à la source de bien des interrogations, qu'est-ce qu'on fait si le pape devient fou ou gâteux? Et le droit canonique a une solution, ce qu'on appelle le siège empêché. Le pape est définitivement hors d'état de remplir ses fonctions. Donc, il suffit de le constater médicalement et canoniquement pour que ses fonctions cessent. Une option possible, mais qui n'est pas assez précisée aujourd'hui. C'est la dernière conclusion possible. Avoir un statut canonique clair, qu'on appelle le siège empêché. Y avait un précédent possible. En 1943, quand les troupes nazies ont pris possession de Rome, il était question très sérieusement d'enlever Pie XII et de le mener en Allemagne. Pie XII avait dit à ses cardinaux, si ça m'arrive, je ne suis plus pape. Ils n'auront plus entre les mains que le cardinal Pacelli. Donc, des situations d'extrême urgence, de persécution, de folie ou de gâtisme peuvent entraîner la nécessité de constater effectivement l'impossibilité totale et définitive d'un homme à remplir sa fonction. Et du coup, elle cesse de facto et de jure. Il est à souhaiter que le pape prenne en charge cette dimension-là parce que les papes vivant de plus en plus vieux, le problème se reposera fatalement. Donc il serait bon d'y réfléchir avant d'être dans l'urgence. Je termine avec ce beau tableau de Carpaccio, dont j'ai fait la couverture du livre, qui représente la légende de Sainte Ursule. Sainte Ursule, avec ses 11 000 compagnes vierges, vient se présenter devant le pape syriaque, qui n'a jamais existé, et le pape va démissionner et la suivre dans son périple et mourir avec elle, massacrée par les Huns. On y a cru tout le Moyen Âge. Donc on avait l'exemple d'un pape démissionnaire et mort martyr, inexistant. Vais vous laisser poser vos questions.
C'est un beau père. Je suis sûr que, étant donné la complexité du sujet, nous avons manqué de questions. Personnellement, ce n'est pas, disons, une question que j'aurais à poser, mais disons, une remarque d'admiration sur la clarté de l'exposé, surtout pour la période, disons, du grand schisme, etc. Parce que quand j'ai lu le livre, c'est complexe et vraiment, grâce à aux productions que vous avez portées à l'écran, vraiment, on vous suivait très bien. Je vous en remercie. Voilà, je m'arrête vite pour vous donner la parole.
Ouais, vas-y.
Je veux simplement demander ce que faisait l'Esprit Saint pendant toutes ces périodes troublées.
Je pense qu'il faisait comme d'habitude, il parlait, mais il parlait très fort. Et quand l'homme fait du bruit, il n'entend rien. Mais c'est aussi un signe de l'Esprit Saint quand des logiques de pouvoir et d'orgueil prennent le dessus. D'un certain point de vue, l'Esprit Saint laisse aller au bout des choses pour montrer les impasses auxquelles ça mène. On voit bien, en sortant du cadre ecclésial, on voit aujourd'hui des hommes qui sont tout puissants, qui se permettent tout et n'importe quoi de façon ouverte et sans scrupules et sans vergogne. On se dit que fait l'Esprit Saint. Mais d'un certain point de vue, est-ce qui s'appelle dans la Bible l'esprit de vertige, où l'homme est enivré par sa propre grandeur et va tomber à cause de ça? Mais il faut souvent aller au bout des logiques humaines pour constater l'impasse. Bon, moi, je suis un peu goûté du sujet.
Très actuel.
Certes. Des questions, oui?
Bien, cette légende de Sainte-Catherine français, d'origine.
Alors, chez des hagiographes, alors, on suppose qu'on aurait retrouvé des ossements assez nombreux dans un certain endroit en Allemagne, dont je crois que c'est vers Cologne, avec une légende, Ursula et Unde Cimilia, qui est un prénom. Et on a compris Unde Cimilia comme 11 000. Et comme il y avait beaucoup d'os, on a fait des Ursules et ses 11 000 compagnes. Martyrisés par les Huns en 237, c'est un peu dommage que les Huns, c'est 2 siècles après. Donc la légende est complètement incohérente d'un point de vue chronologique. Et c'est greffé l'histoire d'un pape inexistant, syriaque, qui aurait démissionné et serait mort martyr. Mais les hagiographes ne sont jamais au Moyen Âge à court d'imagination, donc tout est possible.
Est-ce que la décision du pape de démissionner ne doit pas être considérée comme un acte infaillible en fonction de l'infaillibilité pontificale?
Alors, l'infaillibilité ne s'applique que lorsque le pape, en tant que docteur de la foi, et le précisant explicitement, parle de la foi et des mœurs. Donc, ça ne s'applique pas aux actes de la vie courante, ni même aux actes gouvernementaux et administratifs. Par contre, ce n'est pas un acte infaillible, mais c'est un acte souverain. Seul le pape peut se permettre de démissionner sans avoir de compte à rendre à quiconque. L'évêque de Grenoble veut démissionner, il présente sa démission au pape, qu'il accepte ou non. Le pape est le seul dans l'Église qui peut démissionner souverainement. Le tout, c'est qu'il soit libre et librement exprimé. Et sa décision fait loi par le fait même. Mais on est en dehors complètement du cadre de l'infaillibilité qui concerne l'enseignement de l'Église dans la foi et les mœurs. Je vais débrancher. Les autres questions? N'hésitez pas.
Vous avez des vœux pour la. Et le code de droit canonique précise un peu plus les conditions des bénédictions papales. Est-ce qu'il y a une commission qui travaille sur ce thème
Du tout.
donc, qui planche sur le sujet actuel?
Alors, les Italiens ont travaillé parce que eux, ils ont de bons canonistes et ils ont fait tout un projet de constitution apostolique que le pape, une sur la démission en tant que renonciation à son poste et une sur le siège apostolique empêché. Vous trouverez en annexe de mon machin, mon bouquin, le texte de la constitution apostolique proposé par les canonistes italiens il y a maintenant quelques années. Mais c'est un sujet brûlant et aucun pape n'a voulu lier ses successeurs ou se lier soi-même. C'est-à-dire, en 1965, le Concile Vatican II a posé comme règle que les évêques à 75 ans devaient présenter leur démission. Donc quand le pape Paul VI, qui a promulgué ce décret, a atteint 75 ans, certains ont dit, bon, ben maintenant tu t'en vas. Il l'a pas fait pour ne pas lier ses successeurs. Que ses successeurs soient libres de partir ou pas. Et aussi parce que la fonction papale est à nul autre pareille. Donc on ne peut pas la mettre simplement au plan d'un simple évêque de Rome. Il y a d'autres enjeux.
Le concept d'infaillibilité est quand même intéressant, mais est-ce qu'il y a des cours pour
Alors, ce serait anachronique d'en parler au Moyen Âge comme ça. Le Moyen Âge réfléchit surtout en question de Jugement. Le Saint-Siège, le premier siège, n'est jugé par personne. C'est-à-dire personne n'a autorité au-dessus d'eux. Et la fonction papale s'est développée tout au long du Moyen Âge, notamment par l'aspect juridique, en acceptant les recours en appel des sentences portées au niveau local. Un évêque était déposé par un concile provincial, il en a appelé au pape comme juge supérieur. Donc c'est l'aspect judiciaire et juridique où on a un problème délicat. J'ai des prêtres dans mon diocèse qui baptisent au nom du Père, de la Fille et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est valable? Je ne sais pas. Je demande au pape. Et le pape est celui qui dit le droit. Donc au Moyen Âge, la fonction papale s'est renforcée et amplifiée par cet aspect juridique de juge en dernière instance et de producteur de droit. On ne pose pas la question en termes d'infaillibilité. Mais il est évident qu'une fois que le pape a prononcé le droit, nul n'a autorité pour le défaire. Donc on tend vers ça.
Vous avez donc insisté à juste titre sur la renonciation de Célestin Saint, et je crois que vous avez passé une vue où on voit le pape Benoît XVI présent, enfin,
Déposé.
il avait déposé, je crois, son pallium sur le tombeau de Célestin Saint, et auparavant, je crois que vous dites dans votre livre que Paul VI s'était rendu aussi sur
Oui.
la tombe de Célestin Saint. Est-ce que ça signifie que vraiment c'était un exemple qui, disons, restait un peu comme, pas un exemple, enfin, presque un exemple qu'il était possible d'imiter saintement, en quelque sorte?
Alors, j'ai lu récemment dans un ouvrage d'entretien de l'ex-pape Benoît XVI, fait après sa démission, on son pallium sur le tombeau de Célestin V était avant-coureur de quelque chose. Il répond très simplement.